Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source vraiment particulière.
Ah oui, un document assez unique. C'est un article de Gilbert Régour avec une mise en page de Guy Mazard pour le bulletin du Carto Club Aveyronnais. Le titre est simple, Célébrité aveyronnaise. Et c'est passionnant.
On va explorer une galerie de portraits du début du XXe siècle, une époque où la carte postale, c'était le média roi.
Exactement.
L'idée, c'est de comprendre qui étaient les célébrités locales bien avant les réseaux sociaux. Et ce que l'article nous montre, c'est que la gloire, à l'époque, ça n'avait rien à voir avec le showbiz.
Non, c'était souvent des personnages très singuliers, parfois même un peu marginaux, dont la mémoire a été gravée comme ça, sur un petit bout de carton.
Et ce petit bout de carton, c'était pas juste un souvenir.
Non, pas du tout. La carte postale, à cette période, c'est un vrai média de masse. C'est un outil de communication visuelle hyper puissant.
Plus que des paysages, donc.
Bien plus. Elle ne se contente pas de montrer des lieux. Elle fabrique de la mythologie locale. Elle choisit des figures, des visages, et elle les transforme en personnages publics, presque en symbole.
C'est une fenêtre sur la mentalité de l'époque, alors?
Une fenêtre incroyable. Sur leur humour, leur manière de regarder ceux qui sortent un peu du rang, c'est fascinant.
Alors, on va suivre le fil de l'article. On commence par des figures un peu archétypales.
C'est ça, des figures qu'on ne nomme même pas. L'article s'ouvre sur des personnages qu'on pouvait trouver un peu partout en France.
Comme ce fameux Juif errant. Oui, un éditeur de Rodez, Douzièche, qui publie cette carte d'un homme sur une route avec sa besace. Et la légende est lapidaire. Type de l'Aveyron, le Juif errant. On ne sait rien de lui.
Rien. Il n'a pas de nom, il incarne juste une légende millénaire. On est dans le symbole pur.
Mais il y a un autre personnage qui m'a beaucoup plus touché, c'est le vieux mendiant.
Ah oui.
La carte en elle-même est un portrait assez classique, mais c'est ce qu'une expéditrice, une certaine Alix, a écrit au dos en 1909.
Et ça, ça change tout. Elle a ajouté cette maxime. Pour demander, il faut savoir attendre, et pour donner, savoir se hâter. Ce petit ajout manuscrit, c'est incroyable, non?
C'est fou. Ça transforme une image un peu générique en une micro-scène pleine d'humanité, de philosophie même.
On imagine cet Alix comme mignon, 1909, qui feuille sa carte, qui prend le temps d'écrire cette pensée. C'est un geste si personnel. Elle ne se doutait pas que plus de 100 ans après, on analyserait sa petite phrase. Ça donne le vertige.
Totalement. Et ça illustre parfaitement ce premier niveau de célébrité, hein, la célébrité de la condition. Le mendiant n'est pas célèbre pour qui il est, mais pour ce qu'il représente. Il est une figure familière.
Voilà. Et la carte postale le fige dans ce rôle. Elle en fait une allégorie de la pauvreté ou de la patience.
C'est une bonne façon de le dire. Bon, alors, l'article nous fait franchir une étape. On quitte les anonymes pour rencontrer de vrais personnages.
Avec leur surnom.
Oui, avec leur surnom. Direction Milou, où un éditeur signé Papé semble avoir eu un vrai flair pour ses figures locales. Le premier, c'est Tomate.
Tomate. Le crieur public. Son vrai nom, Émile Salgue. On a deux cartes de lui. Sur la première, il pose presque martial, tambour à la main, moustache fièrement relevée. Il a l'air de prendre sa fonction très au sérieux. Et sur la seconde, l'éditeur ajoute une légende, l'as des crieurs. C'est là que ça devient subtil.
Ah oui.
L'usage des sobriquets est un marqueur social très fort. Tomate, c'est familier, c'est coloré. Ça dit quelque chose de lui, probablement son visage rougeau quand il criait les nouvelles.
C'est le village qui donne le surnom.
Exactement. Et la carte postale, elle, vient officialiser ce surnom, le graver dans le marbre. Elle documente une personne, mais en même temps, elle la caricature gentiment. Elle fige sa réputation, quoi.
Mais est-ce qu'on sait comment Émile Salgue lui-même vivait ce surnom de Tomate? Est-ce qu'on le célébrait ou est-ce qu'on se moquait un peu de lui?
C'est une excellente question. Et c'est toute l'ambiguïté de ces objets. On ne le saura jamais.
C'est frustrant.
Oui, mais on peut supposer que c'était un mélange des deux. Une forme de reconnaissance qui passe par une familiarité un peu moqueuse. C'est une célébrité de proximité. Il est notre Tomate.
D'accord. Et cette ambiguïté, elle est encore plus flagrante avec le deuxième personnage de Millon, Pinou. Ah oui, Pinou. Déjà, le surnom est moins glorieux, c'est un diminutif un peu enfantin.
Tout à fait.
Et la description est un chef-d'œuvre d'ironie. Il est présenté comme négociant en sûr et futur candidat.
Rien que ça.
La photo le montre avec un chapeau haute forme improbable et un nœud papillon. Et l'article souligne que ses tenues révélaient ses réelles capacités de futur député. On est en pleine satire.
Totalement. Et là, la carte postale devient un véritable espace de commentaire social. Presque un édito, le négociant en sûr qui se rêve député.
C'est une critique de la prétention, de l'arrivisme politique. C'est ça. C'est du folklore, bien sûr, mais un folklore qui a une fonction très claire. Réguler la vie de la cité, remettre chacun à sa place, le tout avec un grand sourire. On sent le clin d'œil que tous les habitants de Milou devaient comprendre. Cette ironie bienveillante, on la retrouve, mais dans un tout autre registre, quand on quitte la ville. L'article nous emmène près de Sénergue.
À la rencontre de Tonton Victor de la Ratrie.
L'auteur le décrit comme un personnage à la Toulouse-Lautrec ou à la Charlot, tout petit, un peu bourru, et la légende de sa carte est magnifique.
J'adore celle-là.
Bon pied, bon œil, la terreur du vieux gibier. L'ironie est délicieuse.
Ce qui est formidable ici, c'est le contraste. D'abord le surnom, Tonton, ce n'est pas moqueur comme Pinou, c'est affectueux, il fait partie de la famille du village.
Oui.
Et puis il y a ce décalage total entre la légende héroïque, la terreur du gibier, et la réalité qu'on devine, celle d'un chasseur probablement pas très redoutable.
Et il y a une deuxième carte ?
Oui, qui confirme cette tendresse. On le voit au relais, avec une brouette remplie d'une ribambelle d'enfants. L'image est d'une douceur infinie.
On passe du chasseur légendaire au grand-père de substitution. C'est ça qui le rend si attachant. Mais la carte postale n'est pas toujours aussi tendre.
Non, loin de là.
L'article le montre bien. À Villefranche-de-Rouergue, par exemple, le ton change. La fascination se teinte d'un parfum de danger.
Ou de marginalité, en tout cas.
On y découvre le terrible casserole.
Le nom seul est tout un programme. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter un tel surnom ? Eh bien, l'article nous l'apprend. Son vrai nom était Delzesclos et son crime terrible, c'était la contrebande de tabac. Voilà. On est loin du grand banditisme.
Et c'est là qu'on voit le pouvoir de la carte postale de transformer la réalité.
Elle le mythifie.
Oui, elle prend un petit délinquant, un homme qui essayait sans doute de survivre, et elle le drape dans une aura de romantisme noir. Le terrible casserole. Ça sonne comme un personnage de roman feuilleton.
Mais en le transformant en personnage folklorique, est-ce qu'on ne le neutralise pas aussi un peu ?
C'est une lecture très juste.
On minimise la réalité de sa situation, qui était sûrement celle de la pauvreté. On le met dans une boîte, la célébrité de village, et il devient inoffensif. C'est ça, en le transformant en spectacle, on le sort du champ social ou politique, on le folklorise. C'est la même chose pour l'autre figure de Villefranche, l'indigène Coulou.
Décrit comme un chanteur bessasié qui vivait de tout et de rien.
Ces figures de la marche fascinent, mais en les mettant sur carte postale, la société les observe à une distance de sécurité. Elle les célèbre tout en réaffirmant la norme.
Et puis, on arrive à Descazéville. Et là, la vie politique locale, c'était apparemment un spectacle permanent.
Ah, Decazéville.
L'article nous parle d'un certain Florentin. Sa candidature aux élections municipales de 1903, c'est un morceau d'anthologie.
C'est incroyable, cette histoire.
Apparemment, il a obtenu 120 voix, ce qui n'est pas rien. Et à la proclamation des résultats, il a cru qu'il était élu.
Non !
Si. Du coup, il a paradé dans les rues, porté en triomphe par ses partisans. C'est fabuleux. Et Gilbert Regour ajoute un détail qui en dit long. La spécialité de Florentin, son talent le plus connu, c'était de réussir à faire entrer un cul de bouteille dans sa bouche. Alors, la question se pose, pourquoi 120 personnes votent pour un candidat dont le principal argument est, disons, buccal ?
C'est la question que je me posais. Est-ce un vote de protestation ? Un simple besoin de divertissement ?
Ou est-ce que ça révèle une culture politique où le spectacle, le happening, comptait autant que le programme ?
Probablement un mélange de tout ça. Ces candidatures fantaisistes, comme celle de Florentin ou celle de Jean Barthe, le Groulier, le Savetier, elles agissaient comme un exutoire.
Une soupape de sécurité.
Oui, une manière pour la communauté de se moquer des rituels du pouvoir, de désacraliser la politique. C'est un signe de vitalité démocratique, paradoxalement.
Intéressant. Jusqu'à présent, toutes ces célébrités, leur renommée est purement locale.
Très locale, oui.
Elles ne dépassent pas les frontières du canton. Mais l'article nous montre que l'Aveyron a aussi produit des stars d'un tout autre calibre.
Là, on change complètement de dimension. On quitte la célébrité de village pour entrer dans l'industrie du spectacle.
Le premier cas, c'est Henrico, le géant.
Né en 1883, l'article nous dit qu'il mesurait 2,30 m à 20 ans et chaussait du 62. Son gigantisme en fait une curiosité, et cette curiosité va être exploitée.
Il devient une attraction de foire, il voyage à Paris, à Londres, en Amérique. Il change même de nom pour devenir Joseph Dussort, c'est un vrai nom de scène.
Exactement. On n'est plus dans le surnom affectueux ou moqueur donné par les voisins.
Non.
Ce qui est fascinant avec le géant choriste, c'est qu'on assiste à la naissance de la célébrité business. La célébrité n'est plus une statue passif, Elle devient un métier.
Il a monétisé sa propre singularité.
C'est ça. Il transforme une particularité physique locale en un produit d'exportation mondiale. Il n'est plus le géant de l'Aveyron, il est une marque, un spectacle ambulant.
C'est le passage de la célébrité subie à la célébrité construite et commercialisée.
Tout à fait. Et c'est la même logique pour le dernier personnage de l'article, René Angelbert.
Surnommé l'homme cric, un Hercule de foire. L'article précise qu'il y a peu de sources fiables, mais il relaie les légendes.
Et quelles légendes ?
Soulever un essieu de charrette, tracter une locomotive, on est dans l'hyperbole la plus totale.
Exactement. L'homme cric, comme le géant, répond à un besoin de merveilleux du public de la Belle Époque. C'est une période de grands bouleversements, mais il y a aussi une fascination pour la force brute, primitive.
Presque surhumaine.
Oui. Ces hommes incarnaient un idéal de puissance physique qui dépassait l'entendement. Leur célébrité n'est plus ancrée dans un terroir, elle est nomade, internationale.
Alors, si on fait le bilan de ce voyage, on est parti d'un mendiant anonyme sur une route pour arriver à un Hercule sur les scènes d'Europe.
Le grand écart.
C'est une plongée incroyable dans un monde disparu. Celui de micro-sociétés qui créaient leurs propres héros, leurs légendes. Comme le dit si bien Gilbert Regour, c'est un regard plein de légèreté et de sympathie.
Et il faut vraiment insister sur la valeur de ces cartes. Ce ne sont pas juste de vieilles images jaunies.
Non, ce sont de vrais documents.
De précieux documents ethnographiques et historiques. Vous avez utilisé le mot d'ethnographique tout à l'heure et c'est exactement ça.
Justement, quand vous dites ethnographique, ça veut dire qu'au-delà de la simple photo, ces cartes nous racontent comment les gens vivaient ensemble, leur code, leur humour.
C'est tout à fait ça. Une carte postale de Tomate ou de Florentin nous en dit plus sur la sociabilité et la mentalité de l'Aveyron de 1910 qu'un long discours.
C'est une sorte de photo de famille de toute une société, en fait. C'est une très belle image. Elle capture l'âme d'une région, qui on regarde, de qui on se moque, qui on admire, qui on met à la marge. C'est la mémoire vivante et populaire d'une époque, imprimée sur du carton. C'est une conclusion parfaite. Et ça amène une dernière petite réflexion.
Je vous écoute.
Toutes ces cartes postales ont figé des légendes locales pour la postérité. Je me demande, si on devait créer des cartes postales des célébrités de nos quartiers aujourd'hui, qui est-ce qu'on choisirait ?
Intéressant comme question.
L'épicier qui connaît toutes les histoires, l'artiste un peu excentrique qui décore la rue, et surtout, quelle histoire est-ce que ces portraits raconteraient sur nous dans 100 ans ?